Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après avoir obtenu la confiance de l'Assemblée, Édouard Philippe se confronte depuis ce matin au Sénat, contrôlé par l'opposition de droite, pour un vote qui n'engagera pas la responsabilité du gouvernement, mais sera scruté de très près. La veille, le Premier ministre avait présenté la feuille de route de la majorité pour l'année à venir, précisant les prochaines réformes de l'assurance chômage, des retraites, de la mise en œuvre de certaines mesures écologiques, de même que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes d'ici la fin de l'année.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a confirmé ce matin vouloir créer un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans.
Et en deçà de cet âge, elle souhaite instaurer une présomption d'irresponsabilité. Quand tout ou partie des groupes parlementaires d'opposition se mettent en ordre de marche contre la privatisation d'Aéroports de Paris, à partir d'aujourd'hui, ils ont 9 mois pour récolter 4,7 millions de signatures destinées à déclencher l'organisation d'un référendum d'initiative partagée.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la mer d'Oman, théâtre ce matin de plusieurs attaques.
Oui, 2 navires auraient été visés, dont un pétrolier norvégien, et ce, un mois après un incident similaire, toujours dans cette zone stratégique près du détroit d'Ormuz. Enfin, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, dans une vingtaine de minutes, Aurélien Taché, député LREM du Val d'Oise. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Henri Guénaud est notre invité à l'occasion de son essai sur la fin de l'Occident. Ils l'ont tué, oui, mais qui il... Et puis on parlera aussi un peu avec lui quand même de l'état de la droite au lendemain du scrutin européen.
Merci et à tout à l'heure. Acte 2, scène 2. Après avoir présenté hier sa déclaration de politique générale devant les députés, Édouard Philippe renouvelait l'exercice ce matin devant les sénateurs. Et dans un palais du Luxembourg contrôlé, lui, par l'opposition, tout l'enjeu pour le chef du gouvernement était de tester sa capacité à convaincre une partie de la droite républicaine. Or, on vient de l'apprendre sans surprise, Édouard Philippe n'aura pas réussi à obtenir cette fois-ci la confiance. Sur 164 votes exprimés, 93 sénateurs se sont prononcés contre. Pour le reste, et si le cadre était bien différent, le discours est resté pour l'essentiel inchangé. C'est d'ailleurs ce qui aura sans doute convaincu les sénateurs de l'opposition de ne pas soutenir la feuille de route du gouvernement pour les mois à venir. Compte tenu non seulement des multiples perturbations au rond-point observées ces derniers mois, sans parler du mur de défiance qui semble désormais séparer les citoyens de leurs représentants, sans doute certains s'attendaient-ils à ce que le Premier ministre négocie quelques virages, or à l'exception de la promesse d'accélérer la mise en place de politiques écologistes. Au final, le Premier ministre aura tout au plus esquissé de nouveau les quelques infléchissements de courbe destinés à laisser le moins d'espace possible sur sa droite comme sur sa gauche. Pour l'essentiel, on retiendra donc une baisse de la pression fiscale, la suppression promise des régimes spéciaux de retraite, la confirmation de la prochaine réforme de l'assurance chômage, mais aussi la mise en place d'un bonus-malus afin d'éviter le trop grand recours aux contrats courts, la baisse à 1 million de signatures pour un référendum d'initiative partagée, et enfin l'engagement d'autoriser d'ici la fin de l'année la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Pour être tout à fait précis, le Premier ministre a confirmé que le recours à la PMA pour toutes les femmes figurerait dans le projet de la loi bioéthique qui sera débattu fin septembre à l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, et d'ores et déjà, Tara, cela pose donc de nombreuses questions, et notamment sur la filiation.
Oui, c'est un vrai casse-tête. Trois options sont sur la table en matière de filiation. D'abord, se baser sur ce qui existe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Chaque année, 24 000 bébés naissent grâce à une aide médicale. Parmi eux, 1300 sont issus d'un don de sperme ou d'ovocyte, autrement dit l'un des deux parents alors n'est pas le parent biologique. Dans ces cas-là, si le couple est marié, le père bénéficie de ce qu'on appelle une présomption de copaternité. Il est donc reconnu père quand on établit l'état civil, un peu comme si de rien n'était. Mais le Conseil d'État a émis des réserves à propos de l'extension de ce modèle. Il faudrait utiliser une présomption de co-maternité s'il s'agit d'un couple de lesbiennes. Or, qui dit présomption dit qu'il faut que le fait soit vraisemblable. Mais biologiquement, il ne peut pas être vraisemblable que l'enfant soit issu de deux mamans. Cette option est donc très critiquée par le Conseil d'État. Deuxième possibilité, créer un nouveau régime pour tous les couples bénéficiaires d'une aide, d'une PMA, qu'ils soient hétéros ou homosexuels. L'option a le mérite de l'égalité. Dans ce cas-là, les parents rédigeront devant notaire une déclaration commune anticipée. Le document est transmis à l'officier d'état civil en mairie au moment où l'enfant est reconnu par les deux parents. Problème, le fait est mentionné en marge de l'acte de naissance. Or, dans certaines familles, famille hétérosexuelle, on ne veut pas révéler à l'enfant comment il a été conçu. Le secret sera donc impossible désormais si les enfants lisent un jour la copie intégrale de leur acte de naissance.
D'où l'idée, Tara, d'une troisième option donc, qui est portée celle-ci par le Conseil d'État.
Et c'est un compromis, il s'agirait de créer un nouveau mode de filiation, mais uniquement pour les couples de femmes ayant recours à la PMA. Les deux mamans iraient chez le notaire, comme on l'a dit précédemment, établir là encore une déclaration commune anticipée. Au moment de la naissance, l'enfant serait reconnu par les deux mères et la mention se trouverait dans l'acte de naissance intégrale. Le secret serait donc préservé pour les parents hétérosexuels. Cette option a la faveur du Conseil d'État, mais elle est rejetée par l'ensemble des associations LGBT qui crient à la discrimination.
Merci Tara Schlegel. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, elle dévoilait ce matin les grandes lignes de son projet de réforme de la justice des mineurs, projet dans lequel elle propose d'introduire le principe de l'irresponsabilité pénale jusqu'à l'âge de 13 ans inclus. Alors on sait le sujet potentiellement hautement inflammable, la droite en particulier est aujourd'hui farouchement opposée à toute idée de seuil en dessous duquel les sanctions pénales seraient impossibles. Jusqu'à présent, la justice française confie au juge des enfants le soin de décider au cas par cas. En revanche, dans le projet de la ministre, eh bien, les jeunes resteraient bien sûr confrontés à la justice en cas d'infraction jusqu'à 13 ans, mais ce sont alors des mesures éducatives qui pourront être décidées par le juge des enfants. Les explications de Florence Turme.
Actuellement, précise Nicole Belloubet dans son argumentaire, un jeune de moins de 13 ans, auteur d'une infraction, écope d'une mesure éducative si le juge le considère comme capable de discernement. C'est donc cette notion de discernement qui disparaîtrait avec la présomption d'irresponsabilité en deçà de 13 ans. En tout cas, sur le principe, les magistrats pourront toujours apprécier la situation au cas par cas, indique la garde des Sceaux. L'absence de poursuite pénale ne signifie pas pour autant la négation de l'acte commis. Les victimes pourront être indemnisées au civil et les enfants concernés prise en charge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative judiciaire. Selon les chiffres du ministère, environ 2000 jeunes de moins de 13 ans font chaque année l'objet de poursuites. Mais les précautions dont s'entoure Nicole Belloubet pour présenter son texte font en fait écho au débat engagé depuis l'annonce de la réforme de l'ordonnance de 45 qui régit la justice des mineurs, avec un principe fondateur, la primauté de l'éducatif sur le répressif. Un principe que nombre de professionnels s'inquiétaient de voir remis en cause dans une tribune publiée en février dernier. Le député LR Éric Ciotti, lui, avait déposé une proposition de loi prévoyant la primauté de la sanction et de la peine. Quant à l'âge de la responsabilité pénale, il était même sujet de désaccord entre les deux députés rapporteurs de la mission d'information sur la justice des mineurs, lancée l'an passé. Au-delà des dissensions politiques, l'instauration de ce seuil devrait en tout cas permettre à la France de répondre à plusieurs conventions internationales qui exigent un âge butoir pour les sanctions pénales.
Coup de sang, théorie rocambolesque et arithmétique offshore. Le procès Balkany touche à sa fin après 4 semaines au cours desquelles le maire de la commune cossue de Levallois-Perret aura tout tenté pour n'apparaître que comme un fraudeur passif. Lors du réquisitoire à Sonnet, ou dit autrement, place désormais à l'accusation, les deux épouses dont le patrimoine occulte est évalué à 13 millions d'euros sont suspectées de blanchiment à grande échelle. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Il aura mis 17 jours à sortir du silence, un peu plus de 2 semaines donc, pour dresser au final un bilan assez attendu, voire convenu, à l'issue d'élections européennes décevantes où son parti, la France Insoumise, aura recueilli 6,3% des voix, soit 3 fois moins qu'à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a reconnu hier l'échec de son camp tout en appelant à ne rien céder dans les combats à mener. En revanche, le leader des Insoumis n'a pas jugé utile de s'exprimer sur les récentes critiques internes exprimées par plusieurs figures du mouvement. Forte, elle, de son succès aux européennes, Marine Le Pen était à Bruxelles ce matin pour annoncer la formation d'un nouveau groupe d'extrême droite baptisé Identité et Démocratie. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors avec 73 eurodéputés, dont les membres de la Ligue italienne, mais aussi du Vlaams Belang belge ou bien encore du FPÖ autrichien, ce nouveau groupe parlementaire double sa taille par rapport à ses effectifs dans le Parlement sortant. En revanche, Pierre, cela signifie que la chef de l'extrême droite française, venue en personne donc à Bruxelles, n'aura pas réussi à constituer le super groupe qu'elle appelait de ses voeux.
Eh bien, selon Marine Le Pen, le Parlement européen fraîchement élu représente un bouleversement de l'échiquier politique de l'UE. Selon ses comptes, il y aura dans le nouvel hémicycle un bloc souverainiste d'environ 200 voix. Ce nouveau groupe Identité et Démocratie, dont le Rassemblement National et la Lega Italienne sont les poids lourds, espère que sa force politique ira au-delà des 73 députés de 9 pays qui en sont membres depuis ce matin. Non seulement ce chiffre passera à 76 si le Brexit se réalise effectivement, mais en outre, le groupe Identité et Démocratie laisse la porte ouverte à d'autres partis pour les rejoindre. Marine Le Pen estime que l'arrivée des Allemands d'Alternative für Deutschland et des Danois du Dansk Folkeparti prouve la forte attraction du nouveau groupe, plus large que le précédent, vous l'avez dit, le précédent qui était nommé Europe des Nations et des Libertés, un groupe qui passe donc de la 8e à la 4e place en taille au sein du Parlement européen. Les 9 partis de ce nouveau groupe reconnaissent que des pourparlers se sont déroulés sans succès avec d'autres formations, comme les Espagnols de Vox par exemple, mais ils espèrent que le poids de ce bloc dit souverainiste permettra des alliances au cas par cas pour voter ensemble sur certains dossiers, comme par exemple contre la porte ouverte à l'immigration ou encore contre les accords de libre-échange.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Les oppositions de gauche comme de droite entendent bien faire de la bataille qu'ils lancent aujourd'hui un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron, certains y voyant même un terreau fertile pour la présidentielle de 2022. Depuis cette nuit, minuit, s'est ouverte la procédure censée conduire à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation controversée d'aéroports de Paris. Les initiateurs de ce RIP ont désormais 9 mois pour recueillir par voie électronique l'approbation de au moins 10% du corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Conseil constitutionnel qui devait expliquer ce matin le détail de la procédure. En clair, le dispositif de recueil des signatures. Comment donc, Anne, devront procéder ceux qui souhaitent soutenir la pétition ?
Oui, alors cette conférence de presse, Thomas, elle n'est pas du tout finie. Il y a énormément de questions de journalistes sur la sécurité des données, les risques d'usurpation d'identité et surtout parce que l'outil n'est pas si simple à prendre en main. Quand je parle d'outil, je parle de la plateforme internet sur laquelle les soutiens vont être recueillis. On s'y rend par l'adresse web suivante, www.referendum.intérieur.gouv. Il faut ensuite se doter de sa carte électorale et de sa carte d'identité. 2 formulaires à remplir. Le premier permet de valider que vous êtes bien un électeur français. Le système est connecté au répertoire national unique. Vous savez, ce méga fichier d'électeurs au niveau national qui a vu le jour pour les européennes. Et puis le deuxième formulaire permet d'apporter son soutien. Si tout se passe bien, on obtient ensuite un récépissé et dans les 5 jours, on peut aller vérifier sur la plateforme que son nom a bien été pris en compte. Le ministère de l'Intérieur reconnaît que l'ergonomie de ce site n'est pas exceptionnelle et que le langage est administratif, comme l'a dit Alain Espinasse, le représentant de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui est retenu en ce moment au Sénat. Eh bien, donc Alain Espinasse, pardon, dit qu'il faut savoir que ce site a été conçu en 2014-2015, un an après l'entrée de la disposition dans la Constitution, et que la technologie, c'est vrai, a un petit peu évolué depuis, mais ça fonctionne depuis ce matin, a-t-il insisté. Il faut juste être très précis dans les informations qui sont rentrées, ne pas oublier par exemple un tiré entre ces deux deuxièmes prénoms pour que le site vous reconnaisse. Par ailleurs, sachez qu'il y a aussi une procédure par écrit via un formulaire papier type CERFA, un formulaire à déposer dans un réseau de 2000 communes, les mairies les plus peuplées de chaque canton. Une carte interactive va bientôt être mise en ligne sur la plateforme pour les repérer. Quant au comptage des 4 717 396 000 soutiens nécessaires pour que la procédure puisse se poursuivre d'ici 9 mois, eh bien c'est le Conseil constitutionnel qui tous les mois présentera le chiffrage qui évolue.
Merci Anne Fauquemberg en direct du Conseil constitutionnel ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Le Premier ministre japonais rencontrait ce matin le guide suprême iranien au deuxième jour d'une visite inédite à Téhéran au cours de laquelle Shinzo Abe a appelé la République islamique à jouer un rôle constructif au Moyen-Orient. Le Japon est un allié clé de Washington, l'ennemi juré de l'Iran. Pour autant, Tokyo entretient traditionnellement de bonnes relations avec Téhéran. Reste que cette visite intervient bel et bien donc sur fond de tensions exacerbées entre Ali Khamenei et Donald Trump, nourrissant des craintes de déflagration dans le Golfe. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que ce matin, un mois après de mystérieux actes de sabotage présumés ayant visé 4 navires commerciaux au large des Émirats Arabes Unis, eh bien, un pétrolier propriété d'un groupe norvégien a été attaqué entre les Émirats et l'Iran. 3 explosions ont été signalées à bord du navire avec 75 000 tonnes d'hydrocarbures inflammables dans ses cuves. Un autre navire aurait lui aussi été visé dans cette même zone. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Alors pour l'heure, la toile de fond de ces attaques n'est pas totalement claire. Seule certitude, Aurélien, ce nouvel incident, le deuxième en un mois impliquant la navigation dans ce passage maritime stratégique, survient à un moment de tension donc accrue entre Téhéran et Washington.
Oui, les deux navires ont été frappés par plusieurs explosions. Trois d'abord sur le pétrolier Frontalter, propriété d'un groupe norvégien, confirmé ce matin par les autorités maritimes norvégiennes, qui précisent d'ailleurs que le tanker de 110 000 tonnes est toujours en feu. Son armateur taïwanais évoque lui un tir de torpille, mais les autorités norvégiennes ne confirment pas. Et puis le second pétrolier touché est le Kokuka Courageous, selon la firme singapourienne qui l'a affrété. Il aurait été lui aussi la cible d'une attaque, mais sans être endommagé. Alors si les circonstances de ces incidents reste flou. L'agence de presse iranienne parle d'accident. Elle indique que les équipages des deux navires ont été secourus. 44 marins débarqués sains et saufs dans les ports de la République islamique. De son côté, la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, confirme avoir reçu des appels de détresse de deux pétroliers tôt ce matin, mais parle de navires attaqués. Des bâtiments de la marine américaine sont sur zone, selon un communiqué. Une zone à la sortie du détroit d'Ormuz où transite 30% du pétrole mondial. Une zone stratégique, vous le disiez, où quatre navires ont déjà été endommagés il y a un mois. Des sabotages perpétrés par l'Iran ont depuis accusé les États-Unis et l'Arabie Saoudite. L'Iran a démenti et ce matin, Téhéran exprime encore, je cite, son inquiétude après ces nouveaux incidents suspects. Vous le disiez aussi, ils interviennent au moment même où le Premier ministre japonais est en Iran, essaie de favoriser la reprise de discussion avec Washington sur le nucléaire, négociation que Washington veut imposer en mettant ces dernières semaines une pression maximum sur l'Iran, pression économique via toujours plus de sanctions et pression militaire via un renforcement de la présence américaine dans le golfe Persique.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. La Russie et la Turquie ont-elles obtenu ou non la signature d'un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idlib? Une trêve négociée auprès des forces gouvernementales de Bachar al-Assad et des insurgés était censée entrer en vigueur dans la zone dite de désescalade. Or ce matin, Istanbul affirme de sources diplomatiques que le cessez-le-feu n'est toujours pas en place. Au lendemain des pires violences de rue depuis des décennies à Hong Kong qui ont fait des dizaines de blessés, le désespoir autant que l'impuissance semble désormais dominer chez des manifestants convaincus que face à l'inflexibilité de leurs dirigeants, eh bien l'heure n'est plus à l'angélisme. Voilà des mois que l'inquiétude monte dans l'ex-colonie britannique en raison d'un projet de loi de l'exécutif pro-Pékin d'autoriser les extraditions vers la Chine. Ce matin, les principaux organisateurs des manifestations ont promis un nouveau rassemblement monstre dimanche prochain. L'invité politique de la rédaction, à présent Aurélien Taché, député LREM du Val d'Oise. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Première question, monsieur Taché. Édouard Philippe a évoqué hier un report de la réforme constitutionnelle après les sénatoriales en septembre 2020. Réforme qui avait déjà été reportée une première fois après l'affaire Benalla l'été dernier. Est-ce une manière pour l'exécutif d'enterrer cette réforme face à l'hostilité du Sénat?
Bah écoutez, on essaye de faire preuve dans ce domaine de réalisme. On voit bien que les sénateurs, sur notamment les aspects qui consistent à réduire le nombre de parlementaires ou des aspects qui peuvent toucher la haute chambre, sont très très frileux. Donc nous, on posera les différents actes. Il y a, sans rentrer dans les détails trop techniques, plusieurs projets de loi pour cette réforme. Il y en a qu'on pourra faire vite dans tous les cas de figure. Et c'est très bien parce que je pense que c'est ceux qui correspondent aux éléments que les Français ont le plus demandé, à savoir l'introduction de la proportionnelle ou le non-cumul des mandats, des éléments qui permettent vraiment de renforcer la démocratie dans notre pays. Et ça, moi, j'y suis très attaché. Et puis il y aura d'autres éléments qui ne peuvent pas être faits sans l'accord du Sénat ou des Français directement par référendum. J'ai évoqué notamment ce qui touchait à la réduction du nombre d'élus, donc il faudra voir ce que les sénateurs répondent à la proposition qu'on leur fait. Et pour les éléments plus constitutionnels, il s'agit par exemple d'inscrire la lutte contre le réchauffement climatique ou de réformer la Cour de justice de la République. Tout ça sont des éléments qui doivent être vraiment inscrits dans la Constitution. Donc là, également, en fonction de ce que répondront les sénateurs, le président de la République aura soit la possibilité de laisser ces éléments, soit de demander leur avis aux Français par référendum.
Une question de Sophie Delpont.
Aurélien Taché, vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a mentionné un âge d'équilibre pour le départ à la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Moi, je comprends cette proposition de la manière suivante. Vous savez qu'il y avait plusieurs hypothèses possibles qui avaient été exprimées par différents membres du gouvernement, par différents représentants de la majorité au moment de la concertation sur la réforme des retraites. Il était évidemment question donc de mettre fin aux régimes spéciaux, de faire un régime à points qui permette de mieux tenir compte du parcours individuel de chacun et qu'on n'ait pas une retraite qui soit calculée en fonction de votre corps d'appartenance métier, mais plus de votre parcours professionnel. Et certains s'étaient dit, mais oui, mais est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour repousser l'âge légal de départ à la retraite. Moi, j'y étais personnellement très opposé, je le reste, parce que je considère que pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est une injustice. Ceux qui ont souvent en plus les revenus les plus modestes, les carrières les plus difficiles, auraient dû partir plus tard. Maintenant, la question qui se pose dans ce régime un peu individualisé, personnalisé, universel qu'on va mettre en place, c'est comment la durée de cotisation va être prise en compte et si tout le monde peut partir à 62 ans, si on estime qu'effectivement l'âge moyen pour des gens qui ont commencé à travailler tard, souvent maintenant après les études, on commence à travailler vers 25 ans ou autre, quelle durée moyenne de cotisation et quelle conséquence de partir à 62 ans exactement ou un peu plus tard. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on maintienne donc, comme c'est prévu, l'âge à 62 ans et que pour ceux qui partent après, il y ait des bonus. Mais peut-être qu'on évite de mettre trop de malus à ceux qui souhaiteraient partir à 62 ans. Voilà. Mais ça, ça va être la discussion parlementaire qui va permettre de trouver le bon curseur.
À propos du discours de politique générale, hier donc le Premier ministre a confirmé que la procréation médicalement assistée, la PMA ouverte à toutes les femmes, serait enfin examinée en septembre à l'Assemblée nationale. C'est un gage pour la gauche ?
En tout cas, c'est une très très belle avancée pour tous ceux qui croient en cette belle mesure d'égalité. On avait proposé et promis aux Français de le faire sous ce mandat. Le temps passe, donc il était maintenant temps de passer aux actes.
Vous étiez inquiet que ça ne vienne jamais dans l'hémicycle ?
Je suis quand même vraiment rassuré qu'on puisse le faire cette année, moi j'avais eu l'occasion de le dire, je pense qu'après on entre dans une phase du mandat aussi où il y aura beaucoup d'élections, des phases plus politiques et puis qui peuvent venir un peu polluer des grands débats et des grands sujets de société comme celui-ci, donc je suis vraiment très très heureux et je pense qu'on est nombreux à La République En Marche à se satisfaire vraiment qu'on puisse débattre de cette belle loi en fin d'année.
Le Premier ministre a aussi mis l'accent sur l'écologie alors que les oppositions à gauche dénoncent plutôt des mesures de recyclage, pas de réel tournant. Pour vous, il y a un tournant vert là qui se dessine ?
Il y a quand même des engagements forts qui sont pris par le Premier ministre. Après, pour moi, il y a deux choses.
Sur quelle base ? Alors, quel engagement fort ?
Moi, je trouve quand même que, par exemple, ce qu'on va faire en matière de lutte contre le gaspillage, le projet de loi que Brune Poirson va nous présenter sur l'économie circulaire, qui va, pour la première fois dans le monde, permettre qu'on interdise totalement de jeter les invendus, et pas uniquement en matière alimentaire, qu'on favorise ce type d'économie circulaire, est quelque chose de fort. Il y a d'autres éléments sur le plastique, mais pour ce qui est du changement de paradigme, parce que
le changement climatique,
non, mais
sur le changement climatique.
Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a les fermetures à centrales à charbon, etc. Mais au-delà de ça, si on veut vraiment changer de paradigme et si on se dit effectivement que, voilà, il va falloir accompagner cette mutation, on voit bien que là, on a besoin quand même de repasser par des éléments de méthode. L'augmentation de la taxe carbone en novembre dernier, c'est ce qui conduit au mouvement des Gilets jaunes. C'est pas ce gouvernement ou cette majorité qui ne voulait pas faire la taxe carbone. Ça s'est quand même produit sur cette base-là. Donc, il faut qu'on puisse revoir avec nos concitoyens comment on arrive sur les éléments les plus structurants pour lutter contre le réchauffement climatique à trouver un chemin juste, un chemin où ce ne sont pas les plus fragiles qui vont devoir contribuer, un chemin où vraiment on a des changements structurants mais qui seront supportables pour la société. Et donc ça va être la convention citoyenne qui va se mettre en place dans les semaines à venir. Et après, par contre, il faut qu'on puisse nous engager très clairement à suivre ce qui ressortira de cette convention citoyenne.
Au niveau social, hier, quelques mots seulement sur l'hôpital public, alors qu'il y a des grèves massives aux urgences.
Oui, il y a une situation qui est très 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 dure en ce moment aux urgences, et puis d'une manière générale, puisque c'est en fait finalement, les urgences sont l'amortisseur hein, de toutes les difficultés que connaît le secteur hospitalier, le secteur de la santé, donc on a un projet de loi qui réorganise les choses. Moi je pense quand même, et c'est celui qu'a présenté Agnès Buzyn, moi je pense quand même qu'on a besoin, sans mauvais jeu de mots, de mesures d'urgence et de renfort de moyens. Je comprends que tout ça est en train d'être décidé, il faut pas perdre de temps là-dessus, parce qu'effectivement c'est insupportable de voir ces malades sur les brancards dans nos services d'urgence. C'est insupportable de voir de plus en plus de Français aussi qui sont contraints de se rendre aux urgences pour des difficultés qu'ils devraient pouvoir régler par ailleurs, mais qui n'ont pas assez de médecins pour le faire dans leur territoire. Donc il y a là peut-être un des grands, grands enjeux du mandat. Ça a été un des éléments qui est ressorti le plus fortement du grand débat. Les Français sont inquiets pour l'accès aux soins. On doit pouvoir tenir compte de cette situation beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui.
Bah, du grand débat, on parlera aussi de La République En Marche au niveau de la démocratie interne, au niveau de la ligne. Pour vous, donc, qui êtes plutôt sur la ligne de gauche, même si vous ne voulez pas parler trop de gauche, mais tout de même, il y a un déséquilibre en ce moment au sein de La République En Marche à ce niveau-là.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait un déséquilibre. Je pense qu'en revanche, tout ce qui peut faire qu'on reproduit des idées qui fait qu'on rassemble cette grande famille progressiste, y compris sur la gauche et les écologistes, est le bienvenu. Il y a une initiative de Jean-Yves Le Drian qui a été prise. Moi, je travaille avec d'autres à la construction d'un laboratoire d'idées qui est plutôt sur cette partie du spectre idéologique. Voilà, continuons de proposer des choses et c'est comme ça qu'on sera le plus efficace.
Merci Aurélien Taché, député LREM du Val-d'Oise, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot de météo au sud et à l'est. Le temps de cet après-midi sera sec et généralement bien ensoleillé. Partout ailleurs, en revanche, le ciel sera plus mitigé avec une alternance d'averses et d'éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.